Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 27 janvier 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Ça me fait plaisir de vous rejoindre encore une fois pour une nouvelle édition de Ça vaut le détour, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou à Canal M, @ Canal barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter l'actualité. Au menu aujourd'hui, on fait une incursion du côté de la Ville de Québec pour dresser un portrait du transport pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. On en parle avec Simon April du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Sarah Rouleau de la Fondation des aveugles du Québec sera aussi avec nous pour nous parler du gala Humour aveugle qui aura lieu le 6 février prochain au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Mais on commence l'émission avec un petit segment spécial qui, vous allez voir, va revenir dans l'émission tout au long de la saison. Chaque semaine, l'équipe de Canal M souligne le travail exemplaire d'un individu ou d'un organisme se démarquant par une initiative favorisant la participation sociale et l'inclusion des personnes handicapées. Cette semaine, notre coup de chapeau, notre segment spécial est remis au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est un incontournable de l'accessibilité à la culture et chef de file de l'art-thérapie. J'ai mes invités avec moi en studio, ils me font l'honneur de partager en fait la première émission. Donc, ce sera un long segment culture ce matin. Alors, j'ai avec moi M. Jean-Luc Murray, directeur du volet éducation et action culturelle, ainsi que Anne Grace, conservatrice pour l'éducation culturelle, tous les deux au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer tout de suite, en fait, avec l'aspect un peu plus peut-être logistique ou technique. On sait que le Musée des Beaux-Arts est reconnu comme un lieu très, très, très accessible physiquement aux personnes avec des limitations fonctionnelles. Qu'est-ce que vous avez mis en place au musée pour faciliter les visites?
En fait, peut-être qu'on peut récapituler un peu. Il y a 16 ans, le musée a décidé de faire des efforts particuliers pour accueillir les visiteurs ayant des besoins particuliers. Donc, on avait eu à ce moment-là un support extraordinaire de la Fondation McConnell. Et c'est là qu'on s'est beaucoup préoccupé à développer une sensibilité particulière pour toutes sortes de besoins. Donc, entre autres, les gens qui ont des limitations physiques. Et c'était un vrai défi parce que le musée est composé de 4 pavillons, bientôt 5, dont un qui date de 1912. Et malgré les défis, donc on a rendu le musée complètement accessible. Des fois, c'est un peu plus long quand il y a un groupe de personnes, par exemple, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Mais l'expérience des dernières années, au-delà des aménagements physiques qui sont suivis là, par plusieurs personnes au musée, dont les gens de la sécurité, de l'aménagement, ça a été beaucoup de développer une expertise au niveau du dialogue ou de la rencontre, donc de nos médiateurs, de nos agents de sécurité, nos agents d'accueil. Et c'est de ça dont on est le plus fier. D'ailleurs, je vous remercie de reconnaître les actions qu'on pose depuis 16 ans qui nous ont transformés en une institution qui est beaucoup plus humaine, inclusive, positive.
Oui, bien justement, donc on parle non seulement d'un accès physique, par exemple, justement, le passage facilité entre les pavillons, des rampes, même différents... Il y a certains fauteuils roulants qui sont mis à la disposition aussi du public. Mm-hmm. Parce que tout de même, il faut le dire, le musée est quand même très vaste et il y a beaucoup de choses à voir. Mais donc, on parle aussi d'une attention vraiment à porter à la formation du personnel. Ça, c'est plus rare qu'on retrouve ça déjà dans les lieux touristiques et les lieux d'accueil culturel.
Bien, je pense que c'était un besoin essentiel parce qu'on peut dire qu'on va accueillir des gens qui ont toutes sortes de besoins qu'on n'a pas la chance, nous, de rencontrer dans nos vies. Hein. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est un vrai privilège d'être là. Et on a développé avec le temps cette sensibilité-là. Et on s'est rendu compte qu'il fallait faire de la formation en particulier. Peut-être que ma collègue Anne peut parler de la formation guide bénévole qui est assez révolutionnaire. Et on est regardé par plusieurs institutions culturelles à travers l'Amérique du Nord et le monde pour cette approche-là.
Oui, en fait, on a une belle équipe de guides bénévoles qui sont avec le musée depuis...
L'association a fêté son 50e anniversaire.
OK.
vétérans.
Oui.
Oui, exactement. Et en fait, donc c'est un groupe très fidèle au musée et qui nous permet d'avoir des rencontres, évidemment, avec le visiteur. Et on a pensé, en fait, c'était une initiative de Iris Amislev qui travaillait pour le département d'éducation, qui voulait inclure dans notre public les personnes non-voyantes et penser qu'il y aurait une autre façon d'aborder les œuvres. Il y a un ajustement à faire. Alors, elle a développé une formation particulière pour les guides bénévoles en collaboration avec une personne non-voyante, Madame Trudeau, et on a formé toute une équipe de 20-25 personnes pour pouvoir accueillir les personnes non-voyantes une fois par mois pour voir la collection permanente et aussi une fois par mois pour voir nos expositions temporaires.
Justement, on parle vraiment d'une approche multisensorielle à ce moment-là, description verbale aussi des œuvres. Comment est-ce que ça se passe?
Oui. En fait, moi, j'ai appris beaucoup. Je suis nouvelle à travailler sur ce programme et je dois dire que je suis venue avec beaucoup de préjugés. J'avais l'impression que les personnes non-voyantes, c'était l'idée de peut-être mettre des gants et toucher les sculptures. Mm-hmm. Et même, j'avais l'impression que les personnes auraient une certaine facilité à pouvoir toucher les différentes textures et transmettre ça ou le traduire en quelque chose de visuel. Mais j'ai appris que même ce geste est un apprentissage. Donc, ça, c'est juste une façon que les personnes non-voyantes peuvent découvrir une partie de la collection. On a des œuvres, surtout en bronze, qu'on peut toucher avec des gants blancs et même des fois sans gants pour avoir une idée de la différente façon que l'artiste travaillait et à travers ça, évidemment, les émotions, le sujet, etc., qui sont véhiculés. Mais aussi la peinture. Donc, et non seulement la peinture figurative où on peut raconter toutes sortes de scènes, disons, divers ou de...
Des moments marquants de l'histoire, par exemple.
Exactement, histoire ou c'est ça, ou de différents impressionnistes d'une certaine température, etc., mais aussi l'art abstrait. Donc, c'est une ouverture envers tout, en fait, toute la variété des œuvres qu'on a dans la collection, sans limite. Mais c'est sûr que c'est une autre façon de parler des œuvres que le discours traditionnel. Et ce qu'on a appris, c'est que, en fait, on commence avec une description assez précise et aussi d'une façon assez ordonnée du tableau à travers les couleurs, les formes. Mais aussi, le témoignage qu'on a de nos groupes de bénévoles, c'est une expérience qui a complètement transformé la façon que ces personnes voyant leur attitude envers les tableaux, parce que soudainement, ils ont un autre regard qui les enrichit, qui permet d'avoir une façon approfondie, une autre perspective sur les œuvres. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié à la fois par les personnes qui donnent la visite et, je pense, par nos visiteurs.
Et justement, on parle de ces visites-là mensuelles. Est-ce qu'il faut réserver ou on peut seulement se présenter?
Oui, alors idéalement, on demande pour que les personnes réservent une semaine d'avance parce que comme ça, nos guides peuvent se présenter et ça, on peut s'assurer d'avoir le bon nombre de guides pour les visiteurs. Donc, le deuxième mardi de chaque mois, on offre une visite à 10 heures le matin en anglais et une autre visite en français. Et ça, c'est pour la collection permanente. du musée. Donc, nos pavillons d'art canadien, européen, ça inclut aussi notre collection d'art décoratif, qui est une des plus belles en Amérique du Nord. Et aussi, on offre des visites pour les expositions temporaires. On va ouvrir l'exposition Pompéi dans une semaine. Et ces visites se passent le troisième mardi de chaque mois à 13 heures. Et je vais vous donner le numéro de téléphone pour faire les réservations. C'est le 514-285-1600. Donc, c'est le numéro général du musée et on peut réserver. Et comme ça, ça serait d'avoir des guides pour vous accueillir.
Est-ce qu'il est nécessaire d'être accompagné pour assister?
Non, ce n'est pas nécessaire. C'est sûr que s'il y a quelqu'un avec une mobilité beaucoup plus réduite qui a besoin d'aide en particulier, c'est beaucoup plus facile pour le groupe. Non, vous pouvez vous présenter.
Est-ce que ce type de visite particulière-là est ouverte aussi au public qui n'a pas de limitation fonctionnelle?
Les accompagnateurs sont le très bienvenus de suivre, mais...
Ce qui était intéressant, on a travaillé avec Mme Trudeau, on a essayé beaucoup de choses, hein, de la part de la musique, de la danse, des mouvements, des sons. Et entre autres, on voulait peut-être aussi avoir des visites avec des personnes voyantes et des non-voyants. Finalement, avec l'expérience, on s'est rendu compte que c'est comme faire des programmes pour les enfants de 0-5 ans. S'il y en a un de 8 ans ou il y en a un de 12 ans, on perd l'attention sur le public cible. Donc, on a convenu avec les visiteurs que c'était préférable de faire les visites avec les personnes malvoyantes. Et encore là, entre eux, c'est beaucoup basé sur le dialogue, l'interaction, les échanges. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont, dans un groupe plus homogène. Mais éventuellement, on ne perd pas de vue qu'une bonne visite, hein, ça peut convenir à toutes sortes de publics. Mais ça nous a un peu surpris. Nous, on était dans une approche d'inclusion totale. On se disait, on va mélanger tout le monde, ça va bien aller. Mais finalement, il faut respecter aussi, c'est comme les groupes d'âge, on ne peut pas faire une visite avec des enfants de 0-5 ans comme on l'a fait avec des adultes.
Donc, c'est un peu... ce ne sera pas la même approche.
Exactement. Donc, on apprend aussi à... Dans cet échange-là, qui est un dialogue très égalitaire, là, Mme Trudeau, je l'ai mentionné à votre recherchiste tout à l'heure, nous dit des fois des choses qui ne nous font pas toujours plaisir, mais c'est la meilleure façon pour nous d'apprendre, parce que le musée, c'est un lieu où on, souvent, même pour un visiteur régulier, on met tous les autres sens au vestiaire, on les laisse sauf le sens de la vue. Donc, on apprend aussi avec des publics à besoins particuliers à rendre le musée multisensoriel plus intéressant avec l'apport de la musique, la danse, du mouvement, des sons. Le lien avec les émotions aussi, qu'on travaille beaucoup avec ces visiteurs-là, le fait de raconter des anecdotes, des souvenirs devant les œuvres. Donc, ça nous a vraiment, comme disait ma collègue Anne, ouvert à une autre façon d'utiliser notre collection pour, humaniser l'expérience de l'art, qui n'est pas un objet qui parle que de l'histoire de l'art, ça parle de l'humanité dans son entièreté, en fait.
Justement, et dans sa diversité, je vois que vous êtes très ouvert à aller chercher justement des commentaires des visiteurs. Et je veux profiter en fait de la tribune pour moi-même en tant que visiteuse papier assidu du Musée des Beaux-Arts. Donc, j'y vais fréquemment. J'utilise un fauteuil roulant. Et j'ai quand même remarqué quelque chose, même s'il est très accessible physiquement. Il y a souvent, particulièrement dans les expositions permanentes au musée, les tablettes où il y a divers objets qui sont exposés sont autres un peu lorsqu'on est assis dans un fauteuil.
Oh oui.
Et donc, elles arrivent à peine au niveau des yeux, au niveau de la vue, et le fond est souvent opaque. Et je me disais que ça pourrait peut-être être une bonne idée que le fond, un jour, lorsqu'il y aura peut-être des changements, soit en vert pour qu'on puisse voir en partir du dessous et aussi mieux situer les petits panneaux d'explication donc de l'artiste et de l'histoire de l'œuvre. Ils sont difficiles à voir lorsqu'on est dans ma situation. C'est quelque chose que j'ai remarqué.
Je vous dirais que vous n'êtes pas la seule à vous plaindre des cartels ou où ils sont situés, des hauteurs de vitrine. On a le même problème avec les clientèles famille, par exemple.
Oui, exact, les enfants. Exactement. Je me disais ça aussi.
Je me rappelle une expérience dans l'expo Venise et la musique où on avait mis une gondole derrière un mur avec des meurtrières pour voir la gondole. Et on avait oublié d'en faire une à hauteur d'enfant. Donc, les parents s'éreintaient à
monter. Je m'en souviens.
Donc, des fois, c'est une grosse machine, le musée. Mm-hmm. Puis c'est la transformation aussi. Nous, on l'a vécu comme professionnel, c'est un processus. Et éventuellement, on accueille depuis 16 ans maintenant les visiteurs à besoins particuliers. Maintenant, il y en a presque 30 000 par année. Donc, c'est certain que ça ajoute une pression qui est positive parce qu'on est de plus en plus sensible aux besoins des nouveaux visiteurs. Par exemple, les familles n'étaient pas très présentes au musée jusqu'en 2012, donc on est passé de 7 000 visiteurs familles à plus de 50 000. Et c'est certain que l'on se rend compte qu'il n'y a pas de table à langer dans les salles de bain pour les hommes, qu'on n'a que 3 urinoirs dans les salles de bain en bas ou l'accueil des groupes pour les garçons, qu'il n'y a pas de menu spécifique à la cafétéria pour eux, pas d'endroit pour allaiter, identifié pour les mamans qui veulent allaiter, par exemple. L'attitude des agents de sécurité, hein, quand ils voient une famille arriver, des fois, ils ont comme un réflexe naturel de les suivre un peu tout. Donc, c'est des aspects qu'on connaît et puis on sait qu'on a encore du travail à faire. On n'arrive jamais quelque part. C'est toujours un questionnement qu'il faut garder vivant.
Et moi, je vais juste ajouter pour dire merci de nous signaler ce défi. Et je suis très heureuse de partager ce commentaire avec nos collègues qui font le design parce que c'est une voix très importante.
Ben oui, ce qui est bien, Anne Grace est une conservatrice. Et ça, il y avait toujours un peu une difficulté à créer un dialogue entre les gens qui conçoivent les contenus, les expos, et les gens qui sont à l'accueil ou à la diffusion. Et là, on a créé des nouveaux postes, dont un poste de conservateur à l'éducation culturelle. Et ça aide aussi à communiquer des choses qui semblent évidentes pour nous, mais pour quelqu'un qui n'est pas exposé aux visiteurs, qui demeure quand même abstraite. Donc, Anne va avoir un effet d'accélérateur ou de télescopage sur le processus d'adaptation du musée, on en est certain.
On reprend notre souffle le temps d'une courte chanson et on continue avec nos invités à parler de la vocation humaniste du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Reste avec nous.
Même si demain te semble toujours trop loin, si tu pouvais au moins me dire ce qui s'en vient, est-ce que le meilleur avec la peur de te voir m'y faire.
Cacher l'hiver de Marie-Pierre Arthur, tiré de son album Si l'aurore. On continue avec nos invités à parler de tous les programmes développés au Musée des beaux-arts de Montréal, notamment celui de l'art-thérapie, qui est au service des clientèles, en fait, marginalisées. Donc, il y a vraiment une ouverture de ce côté-là. Quels sont les programmes que vous avez mis en place?
En fait, on a vu depuis 15 ans, justement, en étant plus inclusif, plus accueillant, les bienfaits de l'expérience ou de la visite au musée. Donc, c'était des fois très spectaculaire. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on pousse un peu plus loin et qu'on valide, parce qu'il y a des gens qui ont, comme nous, là, sont faciles à convaincre, ils connaissent un peu les bienfaits de l'art, mais il y en a d'autres qui sont plus, sceptiques. Donc, on a mis en place des projets de recherche très poussés avec trois instituts de recherche, le Douglas, qui travaille en santé mentale. Donc, on travaille les troubles alimentaires, l'anorexie nerveuse, l'Institut de cardiologie de Montréal, donc les troubles du rythme cardiaque, et le CHU Sainte-Justine, les jeunes qui ont des problèmes en santé mentale. Donc, c'est développé avec Concordia, des art-thérapeutes, des professionnels du musée, des professionnels de la santé, et ça a été approuvé par des protocoles de recherche assez compliqués. Et dans quelques mois, là, on va voir les premiers troubles alimentaires. Donc, les médecins, des fois, avaient peur qu'on rende les patients pires. Finalement, les effets sont assez spectaculaires. Et cette idée-là de l'art pour guérir peut sembler un peu, ou pour se rétablir plutôt, peut sembler un peu saugrenue. Mais un ethnologue avec qui on travaille nous rappelait que dans toutes les sociétés premières, l'art avait une fonction aussi symbolique qui était utilisée pour la guérison, le rétablissement. Donc, le musée retourne à cette fonction-là de l'art qui était un petit peu oubliée.
Justement, je disais que l'Institut de cardiologie de Montréal, entre autres, une des expériences menées, c'est évaluer l'impact des œuvres d'art sur le rythme cardiaque. Oui. Donc, c'est vrai que les heures nous amènent dans différents états, en fait, et ça dépend les gens. Je voulais qu'on aborde le programme « Le musée en partage ».
On en parlait depuis un petit peu le début. C'est le projet dont on a parlé qui a commencé il y a 15 ans, 16 ans, donc qui offre l'accès gratuit aux clientèles à besoins particuliers. On a plus de 400 organismes communautaires qui travaillent avec toutes sortes de profils. Et ça permet de visiter le musée, de faire des projets, de développer des projets de recherche, des projets innovants. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme projet. Je pourrais vous parler de ceux qui nous ont marqués, particulièrement Action Autonomie, qui étaient des gens qui ont utilisé le musée pour parler des sévices ou des traitements forcés qu'ils ont eus dans les hôpitaux psychiatriques. On ouvre une expo qui commence bientôt, L'art d'être unique. C'est un projet de résidence pour les jeunes adultes de 18 à 40 ans, souvent abandonnés par le système quand ils ont des problèmes d'autisme, de déficience intellectuelle. Donc, le premier, c'est Maxwell Bitton, qui est un jeune qui fait de la peinture. Donc, on lui a fait faire un stage de 8 semaines avec des artistes professionnels pour l'aider à socialiser, à développer son talent. On va travailler après ça avec une jeune autiste, Asperger, qui est une fan des emojis, des émoticônes. Donc, on va lui demander de travailler, d'interpréter la collection à travers les emojis. Donc, chaque cas est unique. Et c'est ça l'effet transformateur, c'est que nous, ça nous a permis de changer nos postures, d'être dans une approche où on regarde les qualités des personnes plutôt que leurs limites, qu'on est en dialogue, donc on considère qu'ils sont aussi compétents, intelligents que nous, donc l'égalité des intelligences. Et ça a transformé l'institution parce que le projet du musée avec le pavillon pour la paix ou l'atelier international d'art et d'éducation Michel Lachenelière, le musée humaniste, le musée du 21e siècle, c'est un musée centré sur ses visiteurs qui met l'humain au centre de l'expérience artistique et qui mise sur des valeurs d'inclusion, de tolérance, de respect, de beauté, de diversité. Donc, une collection d'art, en fait, c'est un véhicule extraordinaire pour aborder l'humain. Et quand on parle de l'art de différentes façons, puis qu'on laisse les gens s'exprimer, c'est spectaculaire ce qu'on peut faire. On peut même aider au rétablissement quand les gens ont des problèmes de santé.
Et ça aide justement même à l'intégration. Je sais qu'il va y avoir une exposition avec des nouveaux arrivants, en fait, oui, qui vont pouvoir s'exprimer justement via différentes œuvres qu'ils vont créer. Ça aussi, c'est même au-delà d'agir seulement dans la communauté, c'est... vraiment
pourquoi pas.
Un grand rayonnement.
On a un projet avec la persévérance scolaire, l'estime de soi avec les petits déjeuners, persévérance scolaire, fusion jeunesse. Le projet dont vous parlez, c'est Fondation Michaël Jean. On travaille aussi un projet de recherche avec le docteur Rousseau sur la collection comme espace pour prévenir la radicalisation des jeunes. Donc, le projet avec Michaël Jean, c'est d'inviter les jeunes des communautés islamo-arabes de Montréal qui vivent des tensions actuellement et de leur donner la collection comme espace de dialogue, de réflexion et de présenter des œuvres qui vont témoigner de leurs préoccupations. Aussi, l'art-thérapie, il faut se le rappeler, c'est juste un bout du spectre parce qu'on n'est pas obligé d'être malade pour venir au musée. L'art-thérapie peut aussi s'appliquer à des gens qui sont relativement sans problème, au moins apparent. Mais disons, l'envergure de toutes les actions du musée, c'est ce dont on est très fier, c'est d'accueillir des familles, des visiteurs, des adultes, en fait, que toute la communauté puisse venir au musée et être tout simplement en interaction avec l'art, selon ses capacités, selon ses moyens. Et ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué pour un musée d'art de révolutionner un peu ses pratiques. Et le projet qu'on met en place sera le plus grand espace éducatif dans un musée en Amérique du Nord. Un espace magnifique. Premier à avoir un espace d'art-thérapie, un espace aussi d'art-thérapie communautaire. On a des projets très excitants de recherche. Et ce qui est fascinant, c'est que ça va vraiment transformer la vision du Musée des beaux-arts de Montréal.
Merci beaucoup d'avoir partagé le programme. C'est fascinant de voir la portée que les œuvres d'art peuvent avoir sur l'humain, finalement, sur la communauté. Je rappelle, mes invités sont Jean-Luc Murray, directeur du volet éducation et action culturelle, et Anne Grace, conservatrice pour l'éducation culturelle. C'était notre coup de chapeau de la semaine à Ça vaut le détour. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous nos coups de chapeau à l'adresse vusezvoix.com/coup de chapeau. Merci encore à mes invités.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Avec Maxime Despomerleaux.
Toujours à Ça vaut le détour, vous pouvez réagir aux propos de nos invités sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic CVLD. Et j'accueille en studio une de nos collaboratrices que vous aurez l'occasion d'entendre régulièrement sur Canal M. C'est un autre organisme qui inaugure sa chronique mensuelle cette semaine. Donc j'accueille Sarah Rouleau, qui est relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir. Il y a des statistiques quand même importantes. Au Québec, on compte environ 100 000 personnes qui vivent avec une cécité totale ou partielle. C'est là où est-ce que la Fondation des aveugles du Québec, en fait, peut vraiment faire une différence dans la vie de ces gens-là. Donc, elle rassemble tout ce qui est ressources humaines, physiques, financières disponibles pour venir en aide aux aveugles et aux amblyopes québécois. J'aimerais qu'on aborde tout de suite certaines activités, certaines actions que vous menez auprès de la communauté.
Ben oui, en fait, comme tu l'as bien dit, on travaille vraiment là, pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En fait, on fête nos 25 ans cette année, donc ça fait 25 ans qu'on travaille très fort là, pour améliorer leur qualité de vie. Et nos différents services, on a entre autres, le seul service de loisirs spécialement conçu pour les jeunes aveugles ou malvoyants, là, on s'entend, donc qui ont entre 6 et 25 ans. Il y en a pour adultes, mais pour les jeunes, on est vraiment le seul. Donc, ça fait, on a aidé des centaines là, de jeunes à avoir une vie active, à avoir une vie sociale. On les amène faire du ski, du rafting, de l'escalade, de l'hébertisme, de tout. Notre but, là, c'est vraiment qu'ils puissent être comme les autres de leur âge, dépasser leurs limites aussi, leur montrer qu'il n'y a pas de limites, en fait. Donc, c'est vraiment ça notre but. On a aussi un service d'habitation. Donc, on a, au cours des années, là, mis sur pied 3 habitations adaptées et dont les loyers sont à faible coût. Donc, ça leur permet de... Souvent, on sait là, que les personnes qui ont déficience visuelle vont vivre dans la pauvreté. Donc, ça leur permet d'être autonomes malgré leur handicap parce que c'est adapté, c'est plus proche des services, etc. Et aussi d'avoir une meilleure vie, là, donc de pouvoir acheter se nourrir mieux, se vêtir mieux, pouvoir faire des activités. Et comme c'est des habitations là, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, ils peuvent aussi s'entraider ou discuter là, des différents deuils ou étapes qu'ils ont à franchir. Donc, ça fait partie de la vie sociale. Dans les deux cas, là, que ce soit notre service de loisirs ou notre service d'habitation, on améliore vraiment leur qualité de vie en leur permettant d'avoir une vie sociale et aussi, ben c'est ça, de ne pas être isolé et de développer leur autonomie le plus possible.
Oui, et justement, si on parle des habitations, est-ce que c'est comme un peu une forme de coop ou ça va être plus des appartements adaptés au cas par cas?
En fait, c'est l'habitation, c'est le bloc qui est adapté. Entre autres, c'est ça, il est vraiment proche de tous les services. Exemple, le dernier qu'on a construit est à côté du métro Vio. Donc, l'épicerie, ça va être plus facile, etc. Les boîtes postales vont être plus grosses, adaptées pour pouvoir recevoir, exemple, des livres en braille qui prennent beaucoup de place. Tout va être plus simple aussi dans la façon de se déplacer. Les contrastes, pour ceux qui ont un résidu visuel, va être plus élevé. Donc, on va voir mieux les portes, les rampes, les escaliers, etc. Notre dernier, on a un ascenseur. Donc, c'est vraiment le bloc qui est adapté. Et c'est pas une coop, c'est un peu plus comme des HLM, donc que le loyer est en fonction de leurs revenus.
Mm-hmm. C'est vraiment réfléchi, en fait, pour justement donner le plus d'autonomie aux locataires, aux résidents qui sont là. Vous l'avez mentionné, l'aspect loisir, vie communautaire active est très important. Quel portrait de la clientèle, en fait, on peut dresser des participants à vos activités? Comment ça se passe, en fait, faire une activité d'hébertisme, par exemple?
Oui. Nous, en fait, depuis plusieurs années, les jeunes qui ont une déficience visuelle, ils peuvent être dans une école spécialisée, mais il y en a beaucoup qui sont intégrés dans les écoles régulières. Mm-hmm. Et malheureusement, les activités dans les écoles ne sont pas adaptées. Donc, on les exempte des activités parascolaires, des activités physiques. On leur dit, on comprend que tu as une déficience visuelle, tu ne seras pas pénalisé, mais tu peux pas faire l'activité avec nous parce qu'ils peuvent pas les amener avec eux. Mais c'est pas vrai que les jeunes sont pas pénalisés parce que c'est souvent dans des occasions comme ça qu'ils se font des amis, qu'ils développent leur confiance en eux, qu'ils développent ce qu'ils aiment, leur passion, etc. Et aussi qu'ils peuvent bouger, là, qu'ils peuvent faire de l'exercice physique. Donc, nous, c'est ça un peu qu'on a voulu comme répondre à ce problème-là. Donc, avec nous, ben au contraire, là, au lieu de rester là à ne rien faire, ben ils font du sport, ils se font des amis, ils se créent des liens merveilleux. Là, c'est un peu comme une famille à la Fondation. Puis, ils sont pas jugés sur leur handicap parce que tout le monde a une déficience visuelle avec nous. Donc, il y a pas de... C'est pas là-dessus là, qu'on met l'emphase. C'est vraiment plus sur leur haute qualité, sur leur personnalité, etc. Puis ils essayent vraiment de tout. Fait que l'hébertisme, ça va être grâce à un guide. Bien, toutes nos activités, en fait, toutes nos activités, c'est grâce à un moniteur qui est les yeux du jeune. Donc, qui va pouvoir lui permettre de faire l'activité là, comme les autres de leur âge, là, comme une personne voyante, parce que ce qui lui manque, c'est les yeux.
Oui, oui, oui. Donc, ça permet tout de même de faire une panoplie d'activités. Oui. La source principale de financement pour arriver à créer ces programmes-là, ces activités-là, ce sont les galas humour aveugle. Et la prochaine édition est le 6 février prochain au Théâtre Saint-Denis, qui est, je pense, presque la résidence officielle du gala humour aveugle. Pardon. Juste nous décrire brièvement ce gala-là. C'est la 26e édition.
Oui. Ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe. On en a un à deux par année. Et c'est vraiment une, comment je pourrais dire, une dizaine à peu près d'humoristes connus et de la relève qui viennent faire un spectacle. Donc, c'est des spectacles qui durent assez longtemps. Là. Les humoristes, il y en a qui viennent 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc, on a la chance là, de voir plusieurs humoristes, découvrir d'autres qu'on ne connaissait pas. Et nous, ben, c'est ça, c'est un de nos plus grands moyens de financement. Et le 6 février prochain, il va y avoir, c'est animé par Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Et dans les humoristes, il va y avoir Eddie King, Vincent C, les Denis Drolet, Julien Tremblay qui est en duo avec France D'Amour, en fait son amoureuse, mm-hmm. Réal Bélan, Laurent Paquin et pour la première fois Jean-Michel Anctil.
Donc on aura peut-être vraiment... Priscilla qui viendra
oui,
peut-être
je sais pas.
sur scène. Mais donc plusieurs humoristes oui, très établis, très connus du public. Est-ce qu'ils adaptent leur numéro? Est-ce que c'est un numéro spécial qu'ils créent ou ils vont chercher quelque chose dans leur répertoire
non,
et le mènent au public?
C'est pas, ils ne le créent pas pour nous. Par contre, normalement, ils ne refont pas un numéro qu'on a déjà vu soit de nombreuses fois à la télévision ou il y a certains humoristes là, qui reviennent à quelques reprises, mm-hmm. soit au, peut-être pas dans la même année, mais on ne veut pas un numéro qu'ils ont déjà fait parce que souvent le public revient. De gala en gala. Donc, souvent, c'est des nouveautés. Parfois, ils testent leur numéro sur nous, mais c'est toujours excellent.
Mais donc, ça va être peut-être l'occasion, justement, de voir du nouveau matériel. Est-ce que, dans le public, est-ce qu'on trouve, justement, beaucoup de jeunes qui ont une déficience visuelle et qui, ça peut être aussi un premier contact avec le monde du spectacle?
Oui. Des fois, nous, on amène nos jeunes, mais c'est surtout des adultes. On a une partie de nos spectateurs qui, oui, ont une déficience visuelle et qui l'apprécient, l'humour, ça, c'est très oral. Ben oui, des fois, bon, il va avoir les gestes et tout, mais en général, les blagues là, sont très orales. Donc, on a une partie de notre public qui ont une déficience visuelle, mais la plupart, c'est des donateurs, donc ils n'ont pas nécessairement de déficience visuelle.
Et est-ce que vous avez d'autres partenaires, justement, pour arriver à créer un gala? On parle d'une ou deux fois par année. Des grosses salles, accueillir quand même des artistes de renom. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient là-dedans?
Bien, nous, c'est les productions Humour Aveugle qui organisent là, depuis toutes ces années le gala Humour pour nous. Donc, c'est une belle collaboration. Puis, justement, on a une belle notoriété. Les humoristes aiment ça revenir. Là. C'est un beau public parce que le public a une cause et tout. Donc, les humoristes souvent aiment bien, en plus de jouer au Saint-Denis, d'avoir un public déjà... pas comblé, mais c'est un beau public pour les humoristes.
Qui veut être là, en fait, oui, là, oui. Qui est déjà conquis d'avance. Et donc, ben, on vous souhaite un très bon succès pour la prochaine édition. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur le web à humouraveugle.ca où est-ce qu'on peut acheter des billets aussi.
Oui.
Et donc, avoir justement, voir les humoristes aussi qui sont
oui,
passés à travers les années. Merci beaucoup, Sarah Rouleau. On se revoit dans un mois pour une autre chronique à Ça vaut le détour.
Avec plaisir. We'll be right back.
L'espion de Michel Pagliaro, un hit, un incontournable de la musicographie québécoise. On termine notre dernier segment, on s'éloigne un peu de Montréal, on pose les yeux sur Québec, particulièrement pour parler du transport pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. On va faire un état de la situation avec Simon April du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Bonjour, Monsieur April.
Salut Maxime, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Simon, vous êtes responsable de la défense des droits des personnes handicapées et aussi responsable des communications au Cap-Viche.
Exactement. On dit Cap-Vie en passant.
Ah, Cap-Vie. Bon, parfait. Oui. Merci beaucoup. Au Cap-Vie, donc, on va commencer tout de suite. Parlez-nous d'abord de l'organisme et de la mission de l'organisme, de la clientèle que vous desservez.
Ben dans le fond, l'acronyme CAPVIE, qui s'écrit CAPVICH, ça veut dire Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Donc, c'est un groupe là, autogéré. Là, on a notre directeur général, mais on a chacun nos secteurs. Donc, ici, on a le secteur de défense des droits des personnes handicapées, qui inclut là-dedans là, le logement, qui inclut justement le transport. Et on avait une grosse campagne sur l'accessibilité. Puis aussi, on a un volet là, d'aide à domicile qui s'appelle volet BRAD. Donc, dans le fond, ça marche avec les chèques en post-service, qui s'appelle. Donc, on donne des services là à domicile. Puis c'est un groupe, là, le CAVI, qui a décollé en 1979, qui faisait partie de... maintenant, ça s'appelle l'IRDPQ, mais qui s'appelait Centre François Charon à l'époque. Puis depuis 1986, on est devenu indépendant, là, puis on a nos locaux à nous autres seuls. Là.
Puis, vous travaillez, en fait, en partenariat avec d'autres organismes ou aussi d'autres, on évoquait le chèque emploi-service.
Exactement.
Ça relève plus du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Exact.
Donc, vous vous trouvez un peu à la jonction entre plusieurs organismes.
Ben oui, c'est ça. Ben dans le fond, c'est que les gens font des demandes ici. Nous, quand on dispatche les demandes, là, c'est soit des demandes de dépenses de droits ou des demandes d'aide à domicile. Mais maintenant, c'est ça, on évolue un peu, là. Donc, il est rendu avec les logements, le transport adapté et tout. Donc, on défend, là. Donc, c'est pas les causes qui manquent, là.
Oui, ça doit vous tenir occupé, je suis convaincue. Le transport, justement, oui. est quand même un volet très important de votre mandat. On parle autant du transport adapté que du transport régulier, accessible. Oui. C'est quoi les options pour les habitants de Québec?
Bien, les options pour les habitants de Québec, dans le fond, tu as le RTC, qui est le réseau public, tu as le transport adapté qui s'appelle STAC. Puis aussi, là, il y a un peu les taxis, mais ça, c'est un nouveau là, débat qu'il va falloir avoir. Je pense que la société, en général, présentement, là, a le débat avec Uber et les taxis. Mm-hmm. Nous, on a beaucoup le débat simplement d'avoir des taxis accessibles pour les personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas se déplacer, là, genre, donc se transférer dans un auto. Je ne sais pas si à Montréal, la problématique est la même. Ici, c'est que les taxis accessibles sont presque inexistants.
Donc, c'est même pas la question. À Montréal, il y a parfois quelques compagnies qui disent ouais. « bon, on doit réserver 24 heures d'avance » ou il y en a d'autres qui s'engagent à pouvoir avoir une voiture accessible, souvent un minivan, par exemple, en l'intérieur de certains délais. Donc, oui. à Québec, c'est seulement pratiquement l'offre est pratiquement inexistante.
Bien, c'est parce que l'offre, dans le fond, c'est que tous les transports adaptés sont beaucoup monopolisés par le transport adapté. Donc, je veux dire, le STAC, puis dans le fond, pour les demandes, c'est que la demande n'est pas beaucoup là. Les chauffeurs de taxi, ils peuvent bien se procurer un taxi accessible, mais ça ne leur garantira pas leurs heures et la demande n'est pas vraiment là. Il y a un projet pilote présentement à Ottawa, là, on vérifie ça, voir c'est quoi l'évolution de la demande, mais à Québec, présentement, il y a une compagnie qui s'appelle Taxi Laurier qui offre les transports en taxi. Mais c'est à défaut de payer un 30$ de base. Mm. Donc, même si je fais une ride de 5 minutes, ben dans le fond, ça va me coûter 30$ pareil. Puis, je suis même pas sûr que c'est légal en passant là, pour ça. Donc, on marche un peu sur des œufs là-dessus là, en termes de taxi.
Oui, donc ça reste un dossier à suivre.
Exactement.
Est-ce qu'il existe des lignes d'autobus régulières qui sont accessibles aux utilisateurs?
Oui, depuis quelques années, là, on est rendu avec c'est la 800, la 801, la 802, la 803, bientôt la 804. Ça, c'est les métrobus, donc c'est les ceux qui font les grandes artères. Donc, eux sont accessibles maintenant. Là, présentement, il y a le parcours 21 et le parcours 7 qui veulent devenir accessibles. Le problème, c'est pas les autobus en tant que tels, c'est plutôt les stations, les débarcadères.
Les arrêts.
Exactement. Parce que, dans le fond, tu peux prendre l'autobus accessible, mais si tu peux pas débarquer, ben ça va pas mieux, là.
Et c'est quoi la principale problématique avec les arrêts? Est-ce que c'est...
Ben dans le fond, c'est de les construire en fonction qu'ils soient accessibles pour tout le monde, là. Parce que quand on dit accessible, c'est pas seulement pour les personnes en fauteuil roulant, c'est pour les personnes aveugles, les personnes sourdes. Mm-hmm. Donc, c'est tout de répertorier qu'est-ce qui est pas accessible dans une station. Aussi, dans le fond... Si vous allez sur le site du RTC, le réseau de transport de la capitale de Québec, les critères sont déjà définis. Donc, les critères sont assez précis, mais on ne peut pas improviser une station ou un arrêt d'autobus accessible. Donc, ça demande beaucoup de travail. Mais par contre, la Ville de Québec et le réseau de transport, présentement, depuis 5 ans, sont très efficaces.
Donc, est-ce qu'il y a des projets du côté de la RTC, justement, pour étendre l'accessibilité du transport régulier?
Bien, c'est ça. Dans le fond, en 5 ans à peu près, là, environ, là, il y a 4... Toutes les métrobus sont rendus maintenant accessibles. Donc, toutes les lignes directes sont beaucoup accessibles. Puis ça provoque... Dans le fond, j'avais cherché les statistiques aujourd'hui, puis ça procure 60% des déplacements des clientèles régulières. Donc, il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant en fauteuil électrique qui vont travailler le matin avec ces métrobus-là. Mmh. Puis c'est ce qui est déjà beaucoup. Puis aussi pour les métrobus, les 75% des stations sont rendues accessibles. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour nous. Dans le fond, pour ce que je vous parlais tantôt, le 21 puis le 7, ça, c'est des lignes qui sont plus petites, mais qui sont toujours demandées. Ça reste à voir, mais on nous a dit que pour la 7, ça devrait être prêt pour ce printemps.
Est-ce qu'il y a des lignes qui se rendent justement un peu plus éloignées du centre-ville de Québec, comme par exemple Sainte-Foy?
Oui, pour aller à Sainte-Foy, il n'y a pas de problème. Je veux dire, si on part de Sainte-Foy puis on reste toujours en Haute-Ville, il n'y a pas de problème. Si on veut descendre en Basse-Ville non plus, c'est simplement, là, faut savoir les transferts d'autobus. Aussi, quand tu arrives le matin, puis tu veux sortir de l'autobus, puis l'arrêt d'autobus n'est pas déneigé, là, c'est pas comme le transport adapté, donc ça te prend quelqu'un pour t'aider. Mm-hmm. Puis quand tu prends le transport public, ben il n'y a pas personne pour t'aider. Donc, tu te retrouves un petit peu dans le trouble. Donc, c'est beaucoup d'autogestion pour les personnes aussi. Là. C'est pas nécessairement l'autobus qui doit être accessible, c'est toute la problématique autour, là. Le trottoir, l'arrêt d'autobus, et l'autobus en elle-même.
Oui, il y a beaucoup de responsabilités qui sont remises vraiment aux utilisateurs.
Oui.
Un des enjeux, justement, de la Ville de Québec pour une personne à mobilité réduite, c'est de passer de la basse ville à la haute ville ou vice-versa. Mm-hmm. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que le funiculaire ou l'ascenseur du Faubourg sont accessibles?
Bien, juste pour préciser, pour les gens de Montréal, le funiculaire, c'est celui qui est à côté du château Frontenac. Donc, ça, mettons, pour aller travailler le matin ou pour se déplacer, ça procure pas beaucoup de déplacements. C'est juste pour passer en haut du château Frontenac à aller dans le quartier Champlain, le petit Champlain, qui est nécessairement un des plus beaux quartiers du Canada qui était nommé l'année passée. Par contre, ce quartier-là, le petit Champlain, est super pas accessible. Donc, on passe dans le funiculaire qui est très accessible, mais que les deux quartiers qui s'y rattachent ne le sont pas. Donc, c'est plutôt au niveau là, de la ville de voir pour pallier à ça.
L'inaccessibilité, c'est au niveau des trottoirs, des rues, des
trottoirs,
pavés.
Des rues, des commerces, parce que c'est des rues commerces. En pavé, c'est le vieux Québec. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de rues en pavé pour les fauteuils roulants, c'est pas l'idéal. Aussi, les commerces, c'est beaucoup dans des quartiers historiques. Hein. Donc, les quartiers historiques, des fois, c'est un petit peu plus long de les faire changer pour l'accessibilité. Là. C'est notre autre projet parce qu'on se dit... On peut prendre le transport adapté, on peut prendre le RTC, le transport public, mais si on peut pas aller rendu à destination dans le commerce ou on peut pas prendre la rue ou le trottoir, on n'est pas plus avancé. Là. C'est plus la concertation entre la ville et les transports adaptés là, qu'il faudrait améliorer. Là.
Et pour ce qui est de l'ascenseur du Faubourg, est-ce que ça fonctionne?
Ben ça fonctionne. On peut rentrer, on peut sortir. C'est juste que quand tu arrives en haute ville avec l'ascenseur, tu débarques puis tu es dans une côte très abrupte. Donc, même si tu te rends en haute ville, à moins d'être Chantal Petitclerc, ça va être très difficile de te rendre à destination. Ça te prend des bons bras, disons.
OK. Mais sinon, l'ascenseur comme tel est accessible. Puis, est-ce qu'il y a des heures d'accès?
Ben c'est sûr, je connais pas les heures, mais je sais que ça ferme à peu près là à 9-10 heures le soir, puis 7 heures le matin, c'est ouvert. Là.
OK, donc c'est vraiment plus axé sur la vie de jour, donc le travail, l'école, faciliter ces déplacements-là.
Oui.
Quels sont les autres dossiers que vous défendez présentement au Cap-Vie?
Ben dans le fond, nous autres, au niveau du transport adapté, il y a beaucoup la demande interrégionale. Je ne sais pas si vous avez ça à Montréal, mais nous, c'est passer de la Rive-Sud à la Rive-Nord, c'est problématique parce que depuis 3 ans, il y a le projet, justement, là de interrégional, mais il reste toujours en termes de projet. Donc, nous, on voudrait que ça devienne un service là, à part entière, sauf que c'est ça, là, les demandes... Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce qui retarde le projet de passer en action?
Je pense que c'est le ministère des Transports c'est parce que ça demande beaucoup de budget pour faire ça. Puis ça demande une concertation entre le réseau de transport de Lévis et le réseau de transport de Québec. Donc, c'est la demande qui est là, mais qui est... la demande est là, mais elle est ponctuelle. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui partent de Lévis pour aller travailler à Québec.
Mm-hmm.
Donc, ça peut être pour les loisirs et tout, mais quand c'est pas pour le travail, c'est pas des demandes régulières. Les demandes régulières, c'est ce qui fait le nerf de la guerre, dans le fond. C'est ce qui permet d'avoir beaucoup de demandes, donc beaucoup de financement. Quand il manque de financement, c'est un peu problématique. Par contre, j'ai vérifié, puis il y a la traversée entre Lévis-Québec, que lui, est accessible complètement, là.
Donc, ça peut être... on parle peut-être pas d'alternative nécessairement pour aller travailler quotidiennement, quoique il y en a qui l'utilisent.
Il y en a qui l'utilisent à tous les jours là, pour aller travailler, mais ça revient au même parce que tu débarques à Québec dans le Petit Champlain ou dans le quartier en bas du château qui n'est pas beaucoup accessible.
Oui, donc on voit que la problématique en fait d'accessibilité des transports, autant le transport régulier que le transport adapté, c'est complexe finalement.
Ben,
il y a beaucoup de facteurs.
Il y a beaucoup de facteurs, puis il y a beaucoup de personnes qu'il faut qu'ils se parlent ensemble. C'est ça qui est le nerf de la guerre, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la ville soit en concertation toujours avec les réseaux de transport. Parce qu'on peut prendre le transport, mais si on ne peut pas se rendre au transport, ben on ne le prendra pas.
Ben, c'est une logique. Merci beaucoup, Simon April.
Ça fait plaisir.
Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVI. Donc, s'il y a des personnes de nos auditeurs qui viennent de découvrir l'organisme, on vous invite à le découvrir. On va mettre le lien sur notre site web. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Je remercie mes invités de la journée, Jean-Luc Murray et Anne-Grace du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Sarah Rouleau de la Fondation des aveugles du Québec, et Simon April. Je remercie aussi mon équipe technique derrière moi, à la recherche Christiane Campagna, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté, aux médias sociaux Kevin Breton. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.